que j'ai plus la date en tête, mais enfin peu importe, le concert est passé. Et nous on était présents aussi à l'invitation du Tangram, on était présents dans la salle avec un stand d'Amnesty, et très gentiment il a parlé de nous, il a parlé de l'arrivée du bus justement samedi 17 au Cube, et il a dit quelques mots sur Amnesty, et donc voilà, il est venu signer les pétitions après sur le stand. Donc c'était vraiment quelque chose de, c'était un soutien très sympa qu'il nous a fait.
Ouais, c'était riche.
J'avoue que je ne connaissais pas du tout ce chanteur, mais bon, c'était pas mal musicalement, enfin, moi j'ai bien aimé. Il était apparemment l'idole de notre responsable de l'antenne, John Clara, qui était absolument aux anges d'avoir pu le rencontrer et discuter avec lui.
Mais a priori, tous les jeunes le connaissaient.
Tous les jeunes le connaissaient, voilà, c'est quelqu'un qui, c'est un chanteur, enfin un musicien qui monte actuellement chez les jeunes, et tant mieux. Et donc voilà, il est venu nous soutenir et il a fait les choses très très bien. Il a été très ouvert et très très correct, c'est le moins qu'on puisse dire, vis-à-vis d'Amnesty, donc tant mieux. Voilà, donc on vous rappelle le bus, on en parlera à la fin, mais on vous rappelle le bus le samedi 17 au Cube, avec les projections de films et les débats. Bien, Françoise vient de nous quitter, là, parce qu'elle avait un autre rendez-vous, pour ça qu'elle a parlé dans la première partie de l'émission. Et moi, je vais vous parler d'un dossier dont on vous a déjà parlé, mais il y a d'un sujet, du moins, dont on vous a déjà parlé, mais il y a un dossier qui vient de paraître, et c'est l'occasion pour nous de redire des choses un peu plus complètes que ce qu'on vous avait déjà dit dans d'autres émissions. C'est bien sûr le drame que vivent les Rohingyas en Birmanie. Donc bon, en préambule de ce que je vais vous dire, je suis allé voir un petit peu pour documenter mon dossier sur parce que j'étais pas très très au fin de l'actualité sur et de la situation des Rohingyas. Merci Renaud. Des Rohingyas en Birmanie, et j'étais regardé sur internet. En fait, alors c'est une population, effectivement, c'est une des nombreuses ethnies qui essaye d'habiter en Birmanie, qui est un pays avec qui a extrêmement d'ethnies différentes. C'est un pays à la vie sociale assez compliquée, et depuis longtemps, et donc et qui parle beaucoup de langues différentes. Donc c'est une des ethnies qui existe, et ces gens-là en fait sont installés, on pense qu'ils sont installés en Birmanie depuis au moins le 12e siècle, donc ils ne sont pas arrivés d'hier du tout. Alors voilà ce qui est, je vais vous faire un petit résumé, je vais vous lire quelques extraits de ce dossier d'Amnesty, et voilà comment ça commence. Au Myanmar, la situation de la minorité Rohingya s'est gravement détériorée depuis août 2017, quand l'armée a entrepris une campagne de violence contre la population des zones du nord de l'état d'Arakan. L'état d'Arakan, c'est là justement où habitent principalement les Rohingyas, où vivent en temps normal la majorité des Rohingyas. Cette campagne, lancée en réaction à des attaques coordonnées contre les postes de sécurité commises par le groupe armé du salut des Rohingyas, était illégale et totalement disproportionnée. Au lieu de s'efforcer de traduire les assaillants en justice, elle visait l'ensemble de la population Rohingya en raison de son identité. À ce jour, plus de 600 000 femmes, hommes et enfants ont fui vers le Bangladesh voisin, où ils ont pu témoigner d'homicides, de tortures, de viols et d'incendies des villages entiers par les forces de sécurité du Myanmar, Birmanie, souvent accompagnées de milices privées. Les Nations Unies ont qualifié la situation d'exemple classique de nettoyage ethnique, et Amnesty International a établi que les actions de l'armée s'apparentaient à des crimes contre l'humanité. Donc dans l'état d'Arakan, Amnesty International a découvert un système institutionnalisé de ségrégation et de discrimination des populations musulmanes. Dans le cas des Rohingyas, ce système est si contraignant et développé qu'il constitue une attaque systémique de grande ampleur contre une population civile, manifestement en lien avec son identité ethnique, ou entre guillemets raciale, et s'apparente juridiquement à un apartheid, qui est un crime contre l'humanité au regard du droit international. Comprendre ce système d'apartheid, comment il se manifeste, comment il est appliqué, est essentiel pour identifier les causes profondes de la crise actuelle dans l'état d'Arakan, mais aussi pour trouver des solutions. Alors que les autorités du Myanmar se sont souvent empressées de présenter la situation dans l'état d'Arakan comme un problème de tension interethnique, ou plus récemment, d'évoquer une menace terroriste. L'état lui-même joue en réalité un rôle central dans la discrimination et la ségrégation systémique dont sont victimes les Rohingyas et d'autres musulmans de l'état d'Arakan. Le gouvernement et la communauté internationale ne peuvent espérer d'améliorer le sort des réfugiés Rohingyas originaires de l'état d'Arakan sans s'attaquer aux causes profondes de leur situation. Et s'ils ne le font pas, la discrimination sera confortée, les souffrances humaines se poursuivront et le conflit pourrait s'intensifier. Il est essentiel de démanteler ce système d'apartheid pour garantir le retour dans la dignité de centaines de milliers de Rohingyas qui ont fui la mort, la destruction et la pauvreté au Myanmar. Mais il est tout aussi urgent de le faire pour les centaines de milliers de personnes qui vivent encore dans l'état d'Arakan, où elles sont toujours victimes de ce régime épouvantable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Rohingyas n'ont pas de statut juridique clair en Birmanie. Ils ne peuvent même pas être qualifiés de citoyens de seconde zone, puisque la plupart d'entre eux ne sont même pas reconnus comme des citoyens. En effet, ils sont privés de nationalité à cause de lois politiques et pratiques discriminatoires, et tout particulièrement de la loi de 1982, en birmane bien évidemment, relative à la citoyenneté. Cette loi prévoit une discrimination fondée sur des critères ethniques, ce qui est bien sûr contraire au droit international. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, c'est que les Rohingyas et les autres musulmans qui vivent dans d'autres parties de l'État d'Arakan sont confinés soit dans leur village, soit dans des camps de personnes déplacées, établis au lendemain des violences de 2012, et qui deviennent de façon inquiétante des installations permanentes au sein de l'État. Dans ces endroits, les Rohingyas et les autres musulmans ne peuvent pas se déplacer jusqu'à la ville la plus proche de chez eux. Et dans les municipalités du centre de l'État d'Arakan, ils ne peuvent se rendre dans d'autres villages musulmans que par voie navigable, ce qui est une atteinte évidemment à la liberté de se déplacer. Les Rohingyas et les autres musulmans sont aussi confrontés à de diverses restrictions arbitraires de leurs accès à des soins de santé. Et là, on commence à tomber effectivement dans quelque chose d'assez sordide, y compris en cas d'urgence vitale. Dans les municipalités de Mangdo et Butidang, dans le nord de l'État, les Rohingyas mettent plus de temps à se rendre dans les hôpitaux et les centres de santé locaux à cause des autorisations de circulation et des postes de contrôle. Par ailleurs, le couvre-feu les empêche de se déplacer pour recevoir des soins médicaux en urgence pendant la nuit. Donc autrement dit, faut pas être malade quand on est Rohingya la nuit, hein, sinon on ne peut pas être soigné. Dans les municipalités du centre de l'État d'Arakan, les Rohingyas ne peuvent pas se rendre dans la ville la plus proche de chez eux, et donc dans les hôpitaux qui s'y trouvent. Les musulmans qui vivent dans tout l'État ne peuvent bénéficier des installations bien équipées de l'hôpital général de Sitwe qu'en cas d'urgence médicale grave, après avoir obtenu l'autorisation des autorités. Ceux qui y parviennent doivent rester dans les centres isolés, où ils sont exposés à des tentatives de chantage. En raison de la ségrégation et de la discrimination, de nombreux enfants musulmans des villages de l'État d'Arakan ne peuvent pas bénéficier de l'enseignement public officiel, soit parce qu'ils ne sont pas autorisés à aller à l'école aux côtés d'enfants d'origine rakhine, soit parce que les professeurs de l'enseignement public refusent d'exercer leur métier dans les écoles de villages et groupes de villages musulmans. Donc ils ne peuvent pas se faire soigner correctement, ils ne peuvent pas aller à l'école, effectivement.
Ils peuvent faire quoi alors?
Effectivement, à part subir la répression, leur marge de manœuvre est extrêmement limitée. Et ils ne peuvent pas, bien évidemment non plus, exercer librement leur religion. Les rassemblements de plus de 4 personnes dans un même lieu sont interdits dans l'État, ce qui dans les faits les empêche d'assister aux offices religieux. En plus de leur isolation, les Rohingyas ont aussi été exclus de la participation aux élections de 2015, celle où a été élu Aung San Suu Kyi, pour des motifs manifestement discriminatoires liés au fait qu'ils n'ont pas le statut de citoyen. Bah oui, forcément, pas le statut de citoyen, pas le droit de vote, on vote pas, et effectivement c'est le serpent qui se mord la queue, hein, si on peut dire. Dans le même temps, rien ne semble indiquer que le gouvernement amènera les auteurs des atroces violences commises contre les Rohingyas lors des récentes campagnes militaires, destruction de villages, entre parenthèses, viol de femmes, meurtre d'enfants, etc., etc. Donc, rien n'indique que les violences commises contre les Rohingyas lors des récentes campagnes militaires, l'État obligera effectivement les militaires à rendre des comptes. Rien ne laisse penser ça. Mi-novembre, une enquête militaire interne a affirmé que les forces de sécurité n'avaient commis aucune violation des droits humains dans le nord de l'État d'Arakan. Donc voilà, autrement dit, il n'y a pas circulé, il n'y a pas photo, il ne s'est rien passé. Donc ce genre de considération, effectivement, bon, le rapport en détaille beaucoup d'autres, hein, je vous fais un résumé, c'est véritablement un système d'apartheid, puisqu'on on refuse même à cette population la notion même d'être un simple citoyen ou une simple citoyenne. Et bien évidemment qu'Amnesty suit de ça de très près depuis très longtemps, et a publié un certain nombre de recommandations, aussi bien vis-à-vis de l'État birman que vis-à-vis de la communauté internationale. Ça me rappelle ce que j'ai dit au début par rapport à cette dame, donc Madame Galacteros, pardon, que si on a le devoir d'intervenir contre des États qui se comportent de cette façon-là. Donc Amnesty International demande aux autorités d'adopter de toute urgence un plan d'action complet pour lutter contre la discrimination et la ségrégation en consultant et en faisant coopérer activement toutes les parties intéressées. De procéder à un examen de toutes les lois, réglementations, politiques et pratiques discriminatoires sur la base de critères ethniques ou religieux et les mettre en conformité avec le droit international relatif aux droits humains et les normes associées. De faire en sorte que les auteurs de crimes contre l'humanité et d'autres atteintes graves aux droits humains soient tenus de rendre des comptes. Et vis-à-vis de la communauté internationale, donc ça c'est vis-à-vis de l'État birman, mais vis-à-vis de la communauté internationale, Amnesty International demande de veiller à ce que toute aide internationale, tout projet de développement ou toute aide financière en faveur de l'État d'Arakan soit explicitement accompagnée de conditions de non-discrimination, de non-ségrégation et d'égalité. De mener des évaluations rigoureuses et constantes de tous les projets et opérations d'assistance pour veiller à ce que leur mise en œuvre ne permette pas d'enraciner, de soutenir ou de perpétuer, directement ou indirectement, la discrimination et la ségrégation. De garantir l'obligation de rendre des comptes pour les violations des droits humains et les crimes contre l'humanité, soit en soutenant et en contrôlant les enquêtes et les poursuites émanant en Birmanie, soit en menant ces enquêtes et en engageant des poursuites au titre de la compétence universelle. Et enfin, Amnesty International demande auprès des Nations Unies à faire en sorte que pour toutes les opérations des Nations Unies relatives au Myanmar, Birmanie, suffisamment d'importance soit accordée aux droits humains avec les ressources nécessaires et développer un plan global pour appliquer l'initiative « Les droits humains avant tout ». Il doit inclure des échéances de mise en œuvre détaillées, des indicateurs de réussite clairement identifiés et un mécanisme d'alerte rapide destiné à empêcher les violations graves des droits humains à y répondre. Voilà. Et juste un petit mot pour finir cette intervention. Il y a un communiqué qui est paru. Bon, là, je ne vais pas non plus vous le citer en entier parce que ce serait trop long. Mais il y a un accord apparemment qui a été passé là, vis-à-vis des 600 000 Rohingyas qui sont actuellement dans des camps au Bangladesh puisqu'ils ont dû fuir leur pays, enfin, là d'où ils viennent, vu les conditions de vie dont on vient de vous expliquer, et bien pire. Et donc, ces 600 000 personnes, il y aura un accord qui a été conclu pour qu'ils puissent réintégrer l'État d'Arakan dans les deux ans à venir. Sauf qu'évidemment, cet accord-là s'est fait sans aucune discussion avec les intéressés et jusqu'à présent, Amnesty est extrêmement sceptique, pour ne pas dire autre chose, par rapport aux conditions que revêt cet accord à venir. Donc, on va là aussi être très prudent et on se demande pourquoi il y a une telle urgence à vouloir vider, entre guillemets, les camps de réfugiés, alors qu'il n'y a absolument aucune sécurité pour le retour des Rohingyas en Birmanie, n'a été apportée par l'État birman. Voilà. Peut-être qu'après ça, Renan va vous dire une autre bonne nouvelle.
Je pense que c'est le moment, oui. Donc, en Iran, une condamnation à mort annulée. Saman Nassin, un membre de la minorité kurde en Iran, arrêté à l'âge de 17 ans, n'est plus sous la peine de mort. Condamné pour inimitié à l'égard de Dieu, Saman Nassin avait été à plusieurs reprises sur le point d'être exécuté. Son avocat nous a confirmé qu'il avait été acquitté des charges qui pesaient sur lui et que sa peine avait été commuée en 5 années d'emprisonnement pour appartenance à un groupe formé dans le but de porter atteinte à la sécurité nationale. Son avocat estime qu'en raison du temps qu'il a déjà passé derrière les barreaux, Saman Nassin devrait bientôt être libéré.
Bon, puis je pense que comme on aime bien les bonnes nouvelles, t'en as pas une autre là sous la main ?
Ah bah si, tout à fait.
Oh bah vas-y, faut pas hésiter.
Là c'est en Égypte. Mayenour El Masri est avocate et avait été condamnée en 2016 pour son militantisme pacifique. Elle vient d'être relaxée. C'est une merveilleuse nouvelle pour Mayenour qui vient de retrouver la liberté. Elle n'aurait cependant pas dû passer un seul instant derrière les barreaux, car elle n'a été arrêtée qu'en raison de son militantisme pacifique en Égypte. Sa libération est sans nul doute un énorme soulagement pour sa famille et pour toutes les personnes qui l'ont inlassablement défendu.
Il y avait Renan qui fronçait les yeux quand il était maladie.
Et pour rien cacher, je change de lunettes demain, je pense que ça ira mieux.
Tu nous rappelles où ça se passe, cette libération?
En Égypte.
En Égypte. Ben voilà, on espère qu'il se passera exactement la même chose très rapidement pour Taner Kilic, dont on vous a parlé tout à l'heure. Lui non plus, en Turquie, n'a rien à faire en prison. Un deuxième petit break musical.
The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophone say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask for me to open up the gate for you. I want you, I want you, I want you so bad. I want you. All my fathers, they've gone down to love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that I'm not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Chat with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. I wasn't very cute to him, was I? But I did it though, because he lied, because he took you for a ride, and because time was on his side, and because
sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est toujours le groupe d'Amnesty International Évreux, et on vient d'entendre un morceau qui s'appelle I Want You. C'est une reprise qui figure sur le quadruple CD qui était sorti il y a quelques années en soutien à Amnesty et qui s'appelle Chimes of Freedom.
On pourrait pratiquement dire les deux rescapés du groupe, parce que
les deux rescapés du groupe,
on était à quatre, on n'est plus qu'à deux.
Non, mais Françoise a dû partir,
ouais, tout
puis,
à fait.
Bon, puis Claire-Lise apparemment a un empêchement. Bon,
ce sont des
choses qui arrivent, hein, voilà, quand on travaille comme nous, quand on est bénévole et on est très fiers d'être bénévole, et que donc voilà, il y a des impondérables partout, et donc voilà, pas de soucis, mais on va terminer l'émission sans problème.
Tant que tout le monde est, il faudra que tout le monde soit présent ce week-end, parce que je crois que ce week-end on a quelque chose.
Voilà, ben oui, exactement. Samedi, on vous le rappelle, on vous l'a dit au début de l'émission, mais là on va en reparler beaucoup plus longuement, pendant le quart d'heure qui nous reste. Il y a donc un bus d'Amnesty qui vient vendredi et samedi, un bus d'Amnesty qui s'appelle I Welcome, un bus jaune qui va être très facile à voir dans les rues d'Évreux. Enfin, il va être stationné le vendredi au lycée Aristide Briand. Et le samedi, il sera devant le Cube, la salle des musiques actuelles. Donc, venez nous voir, venez visiter le bus. Il y aura de la documentation dans le bus, une exposition. Et tout ça, c'est en rapport avec ce travail qui s'appelle I Welcome. Et vous allez me dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire bienvenue en anglais. Et bienvenue, c'est par rapport à tout un travail sur l'accueil, bien évidemment, des réfugiés et des migrants, mais surtout par rapport aux réfugiés, puisque c'est un thème qui tient particulièrement à cœur, d'Amnesty. Donc ça traite effectivement de tout ce qu'on entend par rapport à l'accueil des réfugiés en Europe. Bon, ça, les gens qui meurent en Méditerranée, les camps de réfugiés à droite et à gauche, comme à Calais, tout ce qui s'y passe, enfin je veux dire, toutes les qui font la une des médias, et toutes les conditions de vie sordides dont on est malheureusement co-responsable en tant que Français, et dans ce pays qu'on aime toujours à tort, le pays des droits humains, mais ça c'est un autre sujet. Et donc l'arrivée de ce bus, c'est de faire toute une campagne par rapport à la nécessité d'accueillir correctement les réfugiés, parce que les réfugiés ce sont des gens qui cherchent l'abri pour défendre leur vie, qui fuient la guerre, qui fuient des menaces dans leur propre ville et qui luttent pour leur propre survie. Et c'est reconnu par le droit international. La France a signé tous les textes, l'Europe a signé tous les textes, encore une fois, et on ne fait que des rappels à l'ordre vis-à-vis des autorités françaises et européennes pour dire nous devons accueillir les réfugiés dans des conditions dignes. Voilà le sens du discours d'Amnesty. Alors on va reprendre vos souhaits par rapport à ça. Ils seront notés sur des petits cartons. Enfin, vous découvrirez sur place samedi comment ça se passe. Et l'ensemble de ces réflexions seront remises auprès de la présidence de la République à l'Élysée au mois de juillet prochain. Le bus sillonnant les routes de France depuis l'été dernier jusqu'à l'été prochain. Donc voilà. Donc on compte sur vous pour être présent. Il y aura des projections de films. On va vous en dire un petit mot tout à l'heure. Il y aura des projections de films et une conférence débat. Mais je vais vous passer un petit extrait d'un petite explication que j'ai récupérée sur France Culture aussi, et qui explique très bien pourquoi ce que dit Amnesty, à savoir que l'accueil des réfugiés, ce n'est pas les réfugiés qui sont le problème, c'est l'accueil des réfugiés qu'on n'est pas capable de faire dignement qui est un problème.
Cette crise a été de mettre à jour, on va dire, le manque de solidarité européenne. Et encore, c'est vraiment un euphémisme, c'est-à-dire l'explosion des mécanismes de coopération communautaire devant un afflux de réfugiés, dont je me permets de préciser qu'il n'était pas exactement la surprise de l'année. C'est-à-dire que les crises dont on parle, la Syrie commence à la fin de l'année 2011, elle ne touche l'Europe qu'à la fin de l'année 2014, au début de l'année 2015. La crise érythréenne, je me permets de le rappeler aussi, elle a commencé en 1962, donc on a eu un petit peu le temps de la voir venir. La crise irakienne, elle commence en 2003, si on oublie les crises précédentes. Donc on n'est pas non plus face à des événements de type cataclysme environnemental totalement inattendu. Donc l'impréparation de l'Union européenne et cette explosion des mécanismes communautaires, elle m'inciterait à dire que cette crise est peut-être pas du tout une crise des migrants ou des réfugiés.
Donc voilà, c'était Madame Hélène Thiollet, elle s'appelle. C'est une chercheuse, une sociologue au CNRS, et qui parlait il y a quelques semaines au micro de France Culture. Donc voilà, qui explique très bien que cette fameuse crise, entre guillemets, des réfugiés, cette quantité importante de population qui vient en Europe pour chercher refuge, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, comme elle le dit, on avait le temps de voir arriver les choses. Bien sûr, personne ne l'a fait. Et après, on s'aperçoit qu'on est désemparés par rapport à ces gens-là, alors qu'en fait, c'était tout à fait prévisible. Et c'est ce que dit Amnesty. Alors, plutôt que de vous faire un grand discours, dans ce qu'on va développer samedi dans nos débats et dans les films que vous allez voir, il y en a deux. Films et un qui se passe dans un reportage qui a été fait par Yolande Moreau dans le camp de Calais qui s'appelle Nulle part en France, et un autre reportage qui a été fait sur une petite ville qui est à 30 km d'ici, à Cerquigny, qui accueille depuis un an et demi 30 réfugiés afghans, et de voir la réaction de la population par rapport à ça. C'est tout à fait intéressant. Mais j'ai récupéré aussi un autre petit son aussi sur France Culture d'une personne. Alors je vais vous expliquer en deux mots pourquoi je vous passe ce son là. C'est une personne qui a milité visiblement très très longtemps à l'extrême droite, et qui avait un discours extrêmement raciste et contre les réfugiés, enfin, etc., voire pire, et qui a découvert, en étant amenée elle-même, suite à une démarche avec quelqu'un d'autre, à aller dans ce camp de réfugiés et à participer, à servir des repas, à cet aperçu qu'en fait, tous ces préjugés étaient entièrement faux.
Donc, le premier jour où je suis arrivé, on était au Verrocchio, C'est là où, à la base, il y a le plus de monde. Quand on est arrivé, il devait y avoir à peu près 250 personnes la première fois. Sur le coup, je me suis dit quand même, mon Dieu, qu'est-ce que je fous là? Je me suis dit, mais par rapport au nombre de mecs, au nombre de femmes parmi les bénévoles et au nombre de mecs à côté, je fais, si jamais ils se mettent à péter une durite, les bénévoles sont morts. Ça, ils n'ont pas intérêt à les froisser ou quoi que ce soit. Et pourtant, ben, dès qu'il y en a un qui a mis le souk, le mec s'est fait recadrer, ils sont pas bronchés. Je me suis dit, waouh, ça déjà, avec ça, ça n'avait rien à voir avec l'idée que j'en avais. Ensuite, les voir arriver avec les chaussures trouées, les semelles complètement décollées, quand on dit sur les sites patriotiques que les mecs, ils ont des bifetons plein les poches, qui se promènent avec des liasses, que c'est limite s'ils sont pas la Banque de France, si le mec était la Banque de France, il se promènerait pas en guenille. Bon, sur le coup, par rapport à mon look, Rangers, treillis, crâne rasé, ils m'ont pris pour un flic. Donc les mecs se sont bien méfiés. Donc après, on a commencé, j'ai commencé à parler, parce que parmi eux, il y a un gars qui parle très bien français. Donc un Érythréen qui parle extrêmement bien français. Avec lui, le contact est passé tout seul. Je sais pas si c'était le fait qu'il parlait français ou je sais pas. Il y a quelque chose qui s'est déclenché. On a commencé à papoter. Donc après, il y en a d'autres qui nous ont rejoints. On a commencé à parler en anglais. Il y a plein de contacts comme ça qui sont établis, mais de manière naturelle. On a commencé à plaisanter autour d'une tasse de thé. C'était... J'ai halluciné. Après, il m'a expliqué comment ils vivaient sur place. Les mecs sont à 5, parfois dans une tente. Des fois, ils ont même pas des bâches sur les côtés. C'est juste des palettes, donc des trous avec une toile au-dessus. Les mecs n'ont strictement rien. Les mecs n'ont pas de pognon. Nous, dans ces conditions-là, on se jetterait déjà sous un train. On tiendrait pas. Nous, on suicide. On va voir les Afghans. Les mecs vivent dans un marécage. Ça pue. Il fait froid. C'est la boue. Ça n'avait strictement rien à voir avec ce qui était décrit, avec ce qui était dit. On m'aurait foutu un coup de couteau dans le ventre, c'était exactement pareil, parce que le choc a été d'une brutalité, ça a été d'une violence. J'ai descendu, je suis rentré, la première chose que j'ai fait, c'est descendre la moitié d'une bouteille d'alcool. Parce que fallait que je me remette une gueule de bois, de manière à après réavoir les idées claires. Parce que je suis rentré, j'étais pas net. C'est comme un mec qui venait de se faire plaquer, ou je sais pas. Mais je suis rentré, j'avais un... Comme si j'avais pas arrêté de me prendre des coups, en fait. Quand j'étais entré à Sauvon-Calais, j'étais raciste et islamophobe. Mais quand je vous dis raciste, c'était raciste. Je pouvais pas les voir en peinture. Et pour moi, les musulmans, c'était tous des islamistes. Hein. Fallait tous... c'était même pas la peine. Fallait tous les flinguer parce que c'était nocif. Moi, je les voyais tous comme des terroristes. Et pour moi, un musulman modéré, c'était juste un terroriste qui attendait son heure pour passer à l'action. Maintenant, depuis que je côtoie donc les migrants ici... dont la plupart sont musulmans, ben il y en a pas un, j'ai pas jamais de problème avec. Pourtant ils savent que je ne suis pas musulman et ben on a déjà parlé de religion, ça leur a posé aucun problème. Donc j'ai continué de faire les distributions avec Salam parce que les choses que j'ai vues m'avaient choqué. Ça n'avait pas du tout de rapport avec ce qu'on m'avait dit. Il y a des gens parmi les migrants qui m'ont touché. Et c'est ce qui a fait que j'ai décidé de rester. Parmi les gens que j'avais croisés à Sauvon-Calais, donc par rapport maintenant au fait que je côtoie Salam et que je suis avec eux, il y a des liens qui ont été rompus, et pour d'autres, je suis devenu un paria, donc un traître. Bon, par contre, je revois toujours Patricia deux ou trois fois par semaine, donc c'est une bonne copine. Maintenant, si demain je devais retrouver donc un emploi, parce qu'actuellement je suis au chômage, ça n'empêcherait pas que, à mes moments libres, je retournerais distribuer des petits déjeuners. Si jamais j'avais des postes de l'après-midi ou quoi que ce soit, au matin, j'irais redistribuer des petits déjeuners.
Voilà, donc c'est cette personne qui explique son cheminement, comment on passe effectivement d'a priori raciste, et pire que ça, à un constat de réalité par rapport en disant « mais ces gens-là sont dans une grande détresse et on a un devoir effectivement d'humanité ». Eh bien, c'est tout ce que dit... C'est exactement la même façon de dire, même si les mots sont différents, même si bien évidemment l'approche de la personne est différente, mais ce ne sont pas autre chose que ce que dit Amnesty. Et je vais vous lire juste pour finir, donc on vous attend samedi encore une fois, donc de 14h à 18h, on vous attend au Cube, donc avec deux projections de films et une conférence débat qui sera animée par Sylvie Ouedenou de la commission réfugiés d'Amnesty International France. Et la journée sera couverte par la radio d'ailleurs, elle sera retransmise la semaine suivante. Du moins le débat. Et donc c'est juste pour terminer, je vais vous lire simplement un petit mot qui est dans le dossier qui accompagne cette arrivée du bus ici, hein, le dossier pour les médias bien sûr. C'est un petit mot de la présidente d'Amnesty International France qui dit « En provenance de Syrie, d'Érythrée, de Birmanie ou de pays d'Amérique centrale, les réfugiés ont continué de risquer leur vie à la recherche d'une protection internationale. Contraints d'affronter les dangers de la mer et des frontières terrestres, ils sont exposés aux mauvais traitements, manœuvres d'extorsion et violence aux mains des forces de l'ordre, des bandes criminelles, des passeurs et des personnes se livrant à la traite des êtres humains. Les femmes, les jeunes filles et les enfants sont les premières victimes de ces violences. » Amnesty International déplore que cette crise mondiale des réfugiés, loin de jouer le rôle de catalyseur en faveur d'une réponse mondiale et collective fondée sur les droits humains, soit devenue au contraire un prétexte pour fermer davantage les frontières au détriment des personnes réfugiées. Partout dans le monde, des personnes se mobilisent pour venir en aide aux réfugiés. Cette volonté d'accueillir est aux antipodes de la politique pratiquée par les États et du discours des